Bonjour! Si vous écoutez les épisodes de cette série dans l'ordre, vous allez entendre le huitième et dernier épisode pour cette saison des podcasts de récréation. Au début de cette année, je me suis lancé le challenge d'enregistrer un épisode par mois avec tous les 8 du mois la sortie du portrait d'une femme qui vit des aventures professionnelles passionnantes, amusantes, étonnantes, et j'espère que ça vous a plu. J'ai eu envie de terminer la saison avec un épisode un peu différent et d'enregistrer quelqu'un qui était dans les coulisses depuis le début, quelqu'un qui m'a poussée à enregistrer ses podcasts, tout comme il m'avait déjà poussée à me lancer moi-même dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui me soutient, me supporte, m'encourage, même s'il n'écoute pas tous les podcasts en entier. Voilà, j'ai eu envie de vous partager les aventures professionnelles de Lionel Defraigne, qui est mon mari, avec qui évidemment j'échange beaucoup, qui a un parcours professionnel très riche, très varié, fait de beaucoup d'aventures et très inspirant, je trouve, parce que guidé par cette notion de plaisir, de curiosité, de créativité que j'aime beaucoup amener dans ces podcasts. Donc voilà, j'espère que cet épisode un peu original vous plaira. Je vous retrouve à la fin pour une petite conclusion et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, comme avec tous mes invités, je vais te dire bonjour d'abord.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être venue chez toi, en fait.
Fais comme chez toi, Jessica.
Ben oui, je me suis dit que c'était une façon un peu originale de conclure cette saison de podcast, finalement, en terminant par le début, puisque tu m'as offert ce micro.
C'est vrai.
Et que ça date déjà il y a 3-4 ans et que en fait toi aussi je crois que tu t'amuses dans ta vie professionnelle.
Ah, complètement, oui.
Ça va être bizarre, hein. C'est quand même étonnant de t'interviewer, ça change de d'habitude.
On aurait dû faire ça par téléphone.
Non, mais on va s'y faire. Ma première question pour te situer, c'est qu'est-ce qu'il y a sur ta carte de visite? Comment on appelle ta fonction? Qu'est-ce que tu fais?
J'ai pas de carte de visite, on n'a pas ces moyens-là. Mais alors ma fonction, c'est intéressant parce qu'elle est en pleine transition. Mais disons qu'aujourd'hui, à Singa, je suis responsable d'un projet qui s'appelle le projet Comme à la maison. Et donc, au sein de Singa, je suis responsable de projet, en fait.
Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que Singa?
Oui, bien sûr. Donc, Singa, c'est une association active à Bruxelles, dont l'objectif, c'est de créer du lien entre des personnes primo-arrivantes, donc vraiment des personnes étrangères à la Belgique, qui s'installent, avec clairement un focus sur des personnes qui sont plus vulnérables et qui ont des situations de vie plus compliquées. Donc, ce sont des réfugiés, des demandeurs d'asile, des sans-papiers, des gens qui sont venus dans le cadre du groupement familial, etc. C'est ça qu'on appelle les nouveaux arrivants. Et donc, avec ce public, et le public de locaux, les Bruxellois, les Bruxelloises. Donc, le travail de Singa, ça va être de créer des opportunités pour que ce public, ces deux publics se rencontrent. Notre constat, c'est que voilà, chacun vit dans la ville, mais se côtoie sans forcément se rencontrer, se connaître. Et donc, on va faciliter tout ça. On va faciliter le fait que les gens se rencontrent, justement, apprennent à mieux se connaître, créer un réseau, etc. Et donc, on va le faire de différentes manières, par des activités collectives, par des rencontres individuelles, et alors au travers d'un projet de cohabitation, de colocation solidaire. Et donc, c'est ça, c'est le projet dont je suis responsable, le projet Comme à la maison. Ça, c'est dans les grandes lignes.
Ok, super. Et bah, forcément, c'est un job assez spécifique, assez particulier, qui s'est créé par rapport aux besoins là, de ces populations. Et ce n'est pas forcément un job dont on peut rêver faire quand on est enfant, quand on a 6-7 ans. Forcément, ce job-là n'existait pas, a priori, quand toi, tu étais enfant. T'étais quel genre de petit garçon? Qu'est-ce que tu t'imaginais faire plus tard?
Alors, ça, je crois que ça a mis beaucoup de temps à se définir. Donc, c'était petit garçon, il y avait des rêves de petit garçon. Donc, c'est être cow-boy, et puis être espion, et puis être milliardaire. Enfin, c'était, je me souviens, très longtemps, mon job, c'était ça, quoi. C'était, ben, je voudrais être milliardaire, comme ça, je pourrais m'acheter des tonnes de trucs. Je crois que j'avais lu Picsou Magazine, quoi, et donc je veux être Picsou, quoi,
Ok, t'avais pas encore eu
comme travail. Oui, enfin, voilà. Donc, aucun métier concret. Et en fait, effectivement, j'avais pas d'attrait ou ce rêve d'être médecin ou pompier ou policier ou des métiers qu'on peut identifier, mais qui sont de l'ordre d'un métier. Donc, c'était plus des rêves
De
de
situation.
situations aventureuses, extraordinaires, plus qu'un métier. Et voilà, donc ça s'est plus dessiné dans l'adolescence, mais c'était encore extrêmement confus. Je pense que j'étais bien comme enfant. Enfin, je crois que je suis resté un enfant très longtemps dans ma tête,
La vie était douce.
et voilà, et pris en charge quand se casser la tête, ça va. Alors après, j'ai un père qui a eu des tentatives de se lancer comme artiste. Et donc, on s'abaignait un peu de ça dans la maison. Donc, effectivement, à un moment, faire de la scène, du cinéma, ou de la chanson, c'est des choses qui pouvaient passer. Mais c'était non plus rien de très concret, ou quelque chose où on me dit, ben, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Voilà, donc ça s'est dessiné beaucoup plus tard. Et au final, ce qui à un moment est apparu, s'est concrétisé. Il y avait l'enseignement. Parce que j'avais été fort marqué par Le sac des peaux disparus, Monsieur Keating, voilà, toute la vision romantique du prof. Mais en fait, quand on y pense, c'est plus la scène d'ailleurs, c'est plus le fait d'être en scène que vraiment d'être enseigné quelque chose. Hein. Et puis, alors, c'est venu très tard, mais c'était l'idée de l'anthropologie, étudier, comprendre les autres, comprendre. L'être humain, voilà, ça s'est dessiné. Mais bon, au final, c'est tous des rêves qui n'ont pas du tout été en raccord avec le chemin que j'ai pris professionnellement.
Ok. Et est-ce que bah, finalement, ces envies assez floues, assez mouvantes, est-ce qu'elles ont impacté tes choix d'études? Quand il faut choisir des options en secondaire, qu'est-ce qui t'amène sur une voie? Est-ce que tu lances une pièce et tu vas à
Ouais.
côté comme ça?
Non, mais donc c'est vraiment venu tard, hein. C'est vraiment venu, effectivement, je pense, aux alentours de la cinquième secondaire, quoi. C'est en cinquième secondaire que les choses commencent à se préciser, et puis en réto aussi. Effectivement, le déclic, c'est une émission que je vois concernant l'anthropologie, ben, des anthropologues. Voilà. Mais en fait, c'est cocasse parce que c'était une émission sur l'anthropologie physique, c'est-à-dire l'étude des ossements humains, beaucoup plus en raccord d'ailleurs avec la préhistoire et des choses comme ça, et beaucoup moins avec l'anthropologie sociale et culturelle, l'étude des peuples autochtones ou des comportements humains. Ça, en fait, voilà, mais le mot anthropologie, à ce moment-là, s'inscrit dans ma mémoire, et le choix d'études qui en débouche, c'est fou, en fait, le chemin que ça prend. C'est vraiment sur un détail. Des conseillers de l'UCL viennent à l'école présenter toute une série de métiers. Ils parlent de l'avenir justement des études. Je trouve un fascicule anthropologie. Donc il y a ce mot, je me dis bingo. J'ouvre ce fascicule et en fait, sans faire attention, alors que ça traitait précisément l'anthropologie sociale et culturelle et donc pas de l'étude des ossements, je parcours. Il parle d'études, des trucs, moi je fouais, ok. Je me dis de toute façon, c'est ça que je vais faire, donc voilà. Et il mentionne le fait que c'est plutôt des études à faire quand on a. Il conseille en tout cas d'avoir un certain background personnel, une certaine maturité, une expérience de vie. Et donc il recommande plutôt de faire ces études une fois qu'on a eu d'autres expériences. Et à un moment, il cite dedans l'histoire, le fait d'avoir une jazz culture sur cela. Et là, les connexions se font dans ma tête, puisque super, ça tombe trop bien, histoire, c'est justement la matière de mes humanités où je suis le plus à l'aise et qui m'intéresse beaucoup en fait. Donc je me dis, ben, c'est voilà, c'est génial, je vais donc faire des études d'histoire et puis ensuite je vais faire l'anthropologie comme c'est indiqué dans le fascicule. Voilà,
je que vais tu même, as lu en diagonale.
Que j'ai lu en diagonale, je ne vais même pas aller parler à ces gars.
Au stand
de mon idée, enfin, bon, ça s'est fait un peu après, mais je ne vais même pas aller me renseigner auprès d'un conseiller de l'UCL, de l'ULB, études ou tout ce qui peut être disponible. C'est tracé, quoi. C'est vraiment. C'est, pff, voilà. Il y aura l'histoire, puis l'anthropo. J'ai quand même vérifié, je pense, hein, quand même, qu'il y avait la possibilité de faire une passerelle du diplôme, et notamment au niveau des licences, hein, candidature et licence. Donc. En fait, on ne doit plus faire de candidature à l'époque, avant les bachelors et compagnie. Donc, c'était, voilà, je pouvais passer d'une licence d'histoire à une licence de repos direct. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Okay. Et c'est comme ça que j'ai convaincu mes parents de me laisser commencer les études d'histoire, qui semblaient vraiment, effectivement, tomber un peu de nulle part, avec l'inquiétude des débouchés, en fond. Ouais. Quel travail je vais faire réellement derrière, quoi.
Et quand tu commences, est-ce que c'est des études qui te plaisent ? Ça suit le parcours depuis justement ces cours en secondaire qui te plaisaient ? Tu t'y retrouves en histoire ?
Alors là aussi, drôle de manière de procéder. Je dirais que les études d'histoire ont répondu en partie à ce que j'attendais. Il y a eu moins des choses, voilà, en termes d'apprentissage. Culture, enfin de culture générale presque, hein, d'apprentissage des périodes de l'histoire et des grands mouvements, des choses comme ça. Au final, j'ai quand même beaucoup appris sur d'autres aspects liés aux études même d'histoire, mais que je n'avais pas du tout anticipé, mais qui sont plus en termes de méthodologie en fait. C'est la méthode de recherche, la méthode de précision, et alors quelque part développer une capacité qui m'a beaucoup aidé dans mon travail social par la suite, mais vraiment d'être justement dans la recherche de la vérité entre guillemets, de l'objectivité, donc de remettre vraiment en cause et en question ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter à la première impression, au premier truc, il faut aller voilà, quelle est et d'où vient la source etc. Donc, en fait, ce travail-là,
la démarche
scientifique derrière, c'était pas quelque chose que j'avais conscience en secondaire, mais que j'ai acquis. Mais alors, je dirais que ce qui a fait l'attrait de mes études, c'est tout ce qu'il y avait à côté des études, en fait. Ce qui a fait l'attrait de l'université pour moi, c'est toute la vie à l'université. Ça a été une immense révélation et, je dirais presque, un enseignement à côté de l'enseignement. C'est très lié à la guinda étudiante et aux amis que je m'y suis fait et ce que j'ai vécu, mais par l'expérience en fait de tout ce qu'il y avait des à côté, ça m'a apporté énormément. Donc aujourd'hui je pense à mes années d'UNIF, je pense beaucoup plus à ça
en termes.
Oui c'est ça, au contenu des cours et au contenu même de la matière.
Ouais.
Je pense avoir acquis des compétences, des capacités, une confiance en soi, des tas de choses, beaucoup plus par les à côté de l'étude que les études en elles-mêmes.
Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, l'objectif professionnel évolue ? Est-ce que cette réflexion, tu la mets de côté parce que tu avais prévu de faire histoire et puis anthropo ? Ou est-ce que tu rencontres des professionnels qui influencent peut-être, voilà, où en est le parcours vers un objectif professionnel ?
À nouveau assez chaotique, parce que... En fait, cette vie d'adolescent là, à l'UNIF, de fêter, voilà, de faire la fête, j'y suis bien. J'ai la grande chance et le grand confort d'avoir des parents qui sont patients et qui m'appuient. Donc c'est un luxe quand même quand on y repense avec le recul. Et qui font que je faisais ma route. J'ai avancé dans mes études et donc effectivement j'ai fait hein, ce pont avec l'anthropologie quand même. Sauf que à ce moment-là, j'ai plus du tout les ambitions d'anthropologie et de devenir anthropologue parce que là je réalise quand même, j'ai bien compris depuis à ce moment-là qu'il s'agit bien d'études plus poussées et qu'en fait finalement est-ce que je vais vraiment être chercheur pour aller en Amazonie ou autre ? En fait non. Donc je vais au bout de ça et j'arrive de nouveau à un écueil. Non, effectivement, un grand flou.
Okay.
Donc, ça n'a pas clarifié les choses. Mmh. À part le fait quand même que je ressens à ce moment-là l'enseignement, je veux quand même m'éprouver, et donc je commence une année d'agrégation. Mais c'était la première année qu'on appliquait vraiment la formation en agrégation de manière un peu plus poussée, parce qu'avant, en fait, on s'inscrivait à l'agrégation et on faisait 3 heures de visite dans une classe, et le simple fait d'avoir une licence universitaire suffisait pour être enseignant. Hein.
D'accord.
Il n'y avait rien. Mm. Donc là, pour une fois, il y a une année où on développe, c'est ça, être prof, vous allez devoir vous mettre en situation, construire des cours, et en fait, en le faisant...
Il y a de la méthodologie.
Il y a de la méthode. Ouais. Il faut les raccrocher au socle de compétences et des choses comme ça. Et en fait, en faisant ça, eh bien, tout ça me décourage complètement, puisque là, quand même, puisque mon rêve, c'est d'être M. Keating qui va parler à une classe complètement ébahie. Bon, en fait, non, il faut préparer des cours et les raccrocher, l'administratif et tout ça m'emmerde complètement. Et je me rends compte que non, donc, je ne serai pas prof. Alors évidemment, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, j'étais un peu immature.
T'as eu des stages quand même ?
Non, rien du tout. J'ai arrêté après premier semestre, je n'ai même pas fait les stages.
Okay.
Mais quelque chose était là autour de la coopération développement. Donc vraiment, je ne vais pas aller étudier les peuples en Amazonie, mais par contre, vivre un moment à l'étranger pour contribuer dans des ONG, etc., ça me parle. Ça commence à me parler, cette conscience sociale et cette conscience autour de l'aide. Mais là aussi très flou. Puisque je viens d'avoir un diplôme en histoire, et quand à un moment je cherche un peu les offres d'emploi, ben on cherche des spécialistes, soit des spécialistes liés à des domaines, domaine médical, domaine logistique, domaine d'organisation, soit à des gens qui ont de l'expérience de terrain, qui connaissent des chargés de projet. Donc je vais pas, de nouveau, j'ai une vision qui pouvait fonctionner dans les années 60 ou 70 où on partait comme ça avec un diplôme universitaire à l'aventure, on avait un job quoi. Mais quand même, donc je cherchote à ce moment-là et j'arrive enfin à la fin de ce qui va constituer le début de ma carrière et voilà. C'est que quand même à un moment je me dis oui mais vu que je ne peux pas avoir un boulot comme ça, c'est logique. Et d'ailleurs, c'est bien, en fait, hein, qu'on vérifie que les gens aient déjà la pratique professionnelle, etc. Je ne l'aurai pas, puisque je ne l'aurai pas, je ne peux pas la mettre en avant. Eh bien, autant peut-être me former au social en Belgique, au fond, avant d'aller en faire au Burkina Faso ou ailleurs. Mm-hmm. Finalement, est-ce que je suis fait pour ça? Et vu le nombre de fois où, quand je me suis lancé dans un truc, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Autant le savoir ici avant d'être parti dans quelque chose d'autre.
Donc là, tu as envie de pratique, en fait.
Voilà.
Tu n'as pas eu de stage en histoire, il n'y a pas de stage.
Il n'y a pas de stage.
Donc tu manques peut-être
de pratique, d'expérience de la vraie vie.
Ouais.
Et donc, il y avait ce fait de dire, bah, tiens, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Alors, rapidement après les études, parce que je voulais quand même faire une activité, je me retrouve à faire un stage libre. Alors, on appelle ça, en fait, c'était un bénévolat, ce n'était pas du tout un stage. On disait stagiaire, mais je n'étais pas dans le cadre d'une école, c'était vraiment un volontariat.
Ouais.
Je me retrouve dans une boîte de production qui fait de la production audiovisuelle.
Okay.
Et je me retrouve comme mission à promouvoir le DVD de Faux Contact de Manu Taureau, puisque c'était la boîte qui produisait ça. Et donc, en fait, je me retrouve à appeler des gens pour leur proposer d'acheter des DVD. Enfin, je me retrouve dans une position de vendeur, de marketing, en fait, je découvre un peu des aspects de communication. Et en fait, je m'y plais juste parce que j'aime bien les gens avec qui je travaille. Vraiment, voilà, bon, il ne faut pas grand-chose. J'aime bien l'ambiance, je trouve ça chouette, je découvre un peu un univers. Bon, mais après, ils n'ont pas l'argent.
Il y a quand même le cadre où tu dois aller du lundi au vendredi, tu as un temps plein.
C'est un volontariat comme un temps plein. D'accord. Je le vis comme un temps plein, ouais, ouais. Non rémunéré.
Et ça dure ?
Ça dure quand même 3 mois.
Ok, ok.
Ouais. Je ne suis pas au chômage, hein.
Ouais.
Je fais ça full time. Donc okay. Les gars, ils m'ont fait signer un contrat stagiaire, ils étaient bien contents d'avoir un mec universitaire qui fait ça à l'œil. Mais bon, j'ai trouvé mon compte,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Et bon, évidemment, ils ne savent pas m'engager derrière, et moi, je ne pouvais pas tenir à un moment, financièrement quand même, hein, moi, ça a ses limites. Et c'est là où voilà, le destin, je ne sais pas comment le dire, c'est mis. Il se fait que j'étais très ami avec une connaissance à l'université qui travaille à ce moment-là donc, dans un service social à Schaerbeek et puis qui, un peu à la plaisanterie, annonce comme ça au groupe d'amis « Bah, tiens, en fait, quelqu'un veut bosser avec moi, il y a un job qui se libère comme éduqué. » Et c'est à ce moment-là donc, que je fais le lien sur le côté bah, « Tiens, ouais, au fond, il y a une opportunité là, de me retrouver éducateur dans un service social. En plus, c'est un job d'éducateur non spécialisé, donc on ne demande même pas de qualification particulière. Donc c'est bon, en fait. Je peux postuler, je peux y prétendre. Et c'est l'occasion de me former. Et en plus, j'ai l'opportunité de connaître une des personnes dans la SOS qui me connaît aussi. Donc, alors, la place n'était pas offerte non plus. J'ai quand même fait un entretien d'embauche, j'ai dû convaincre les autres. Mais évidemment, j'avais plus de possibilités, d'atouts.
La porte était entre-ouverte.
La porte était entre-ouverte, exactement.
Ouais, ouais.
Et heureusement, l'entretien d'embauche est bien passé. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon premier job comme éducateur dans un service social à Scarbeck.
Et c'était quoi ta fonction à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faisiez?
Alors, officiellement éducateur, mais évidemment, donc, je n'ai aucune formation d'éducateur. et en fait, on faisait tous le même job, en fait. C'est pour ça que ça allait aussi, mais c'était un service très, très spécial, situé Gare du Nord, et qui avait une grande force, une grande magie. C'est que donc, c'était un lieu à bas seuil d'accès pour le public, comme ça, autour de la Gare du Nord. Il y avait un volet prévention des usages de drogue, réduction des risques dans les usages de drogue. Mais au final, on recevait des personnes vraiment de partout. Tous les gens qui erraient autour de la Gare du Nord. Et donc, ça pouvait être des gens très vulnérables, des sans-abri, des personnes en errance, sans papier, des jeunes, des toxicomanes, des prostituées, et puis des voisins, des gens aussi un peu fragiles mentalement, quoi, qui se retrouvaient là. C'était un peu la cour des miracles, qui se retrouvaient dans un préfabriqué sur un terrain vague. Et le boulot, c'était gérer la permanence de ce lieu.
Papoter avec les gens ?
Papoter et faire que les gens papotent et faire que les gens ne s'hurlent pas dessus et ne se... Enfin, il y avait de tout, quoi. Parce qu'en fait, il y avait vraiment des gens qui venaient pour des démarches sociales très concrètes, utilisées parce qu'on avait un téléphone, ils pouvaient faire des appels, et il y avait des assistants sociaux, il y avait des psychologues. Donc on pouvait vraiment faire un suivi particulier, individuel. Mais effectivement, il y avait des gens qui venaient passer leur temps, socialiser, se reposer après une nuit complètement destroy, et ils savaient qu'ils étaient dans un lieu safe, sécurisant, non jugeant. Les gens pouvaient rentrer en ayant consommé, donc ils ne pouvaient pas consommer sur place, mais il y en avait qui sortaient, hein. Il y en avait qui sortaient boire leur bière, ou même parfois se piquer ou quoi, ils revenaient. Hein. Et donc là, on avait souvent ces débats, est-ce qu'on les fait rentrer ou pas, mais c'était très très ouvert. Et donc le contrat de travail consistait effectivement à rester là pendant une demi-journée, parce qu'on n'était pas plus que ça, on faisait des shifts, parce que 4 heures, rien que ça, c'est ultra prenant au niveau nerveux. Mm-hmm. Pour que ça tienne. Donc il y avait des journées effectivement très tendues, et puis des journées assez incroyables. Enfin, il y a des anecdotes, ça fourmillait, quoi. Il y avait toujours des trucs qui arrivaient, mais effectivement c'était un lieu formidable et en même temps effectivement très spécial, et tout pouvait arriver. Il suffisait qu'un gars rentre dans la pièce et ça changeait toutes les interactions dans le lieu. Faut s'imaginer que c'était un peu fabriqué dans lequel il y avait des bureaux, et il y avait un petit couloir, je pense, d'1,30 m de large sur peut-être 5 m de longueur, avec une toilette dedans. Et là-dedans, on pouvait facilement à un moment se retrouver à 12, quoi, avec un chien. C'était vraiment une proximité, une promiscuité, mais du coup un contact extraordinaire et très puissant avec le social, entre guillemets, et avec des réalités de vie auxquelles j'étais à milieu, quoi. J'ai grandi dans un environnement très bourgeois, très privilégié à Waterloo, sans être moi-même, je ne suis pas un fils de notaire ou fils de banquier, c'est pas ça, mais en tout cas, j'ai grandi dans un milieu qui était loin des réalités sociales
de
la Gare du Nord de Bruxelles, et se retrouver avec des gens qui vraiment vivent la dèche sous toutes ses formes. C'était extrêmement formateur, révélateur, à plein d'égards.
Donc un premier boulot où vraiment on te lance dans la piscine, quoi.
Ouais, je saute dans la piscine sans trop savoir où j'arrivais, ce que c'était. Mais heureusement, avec d'excellents maîtres nageurs, ou en tout cas camarades de nage, c'est ça qui m'a en fait formé.
Ouais.
C'était le fait vraiment d'être entouré de professionnels qui m'ont permis d'acquérir tout ce qui peut être lié au travail social, l'écoute, l'empathie, mais aussi la prise de recul, la capacité à pouvoir interpréter ce qui s'est passé, à justement faire attention à ses propres interprétations. Voilà, moi, le moment que je préférais, c'était la réunion du lundi après-midi, quand on passait en revue les dossiers et que vraiment on décrivait ce qui s'était passé pendant la semaine, et puis qu'on l'analysait, quoi.
Là, tu étais un peu anthropologue.
J'étais un peu anthropologue, oui, c'est ça. Et ça m'a vraiment fort, fort marqué. Ouais.
Et bah, cette belle histoire a quand même une fin. J'imagine que cette fonction, enfin j'imagine, je sais, hein, parce que je sais un petit peu, mais cette fonction d'éducateur, c'était pas ce qui était prévu, donc c'est une transition.
Oui, alors là, complètement. Alors c'est vraiment une transition dans le sens... Alors moi, je suis absolument, il faut bien comprendre, je suis absolument pas carriériste, ou en tout cas, dans ce que je dis carriériste, c'est-à-dire... planificateur de ma carrière. Donc je n'ai pas visé un objectif en me disant je vais passer par telle étape pour y parvenir. C'est vraiment, en fait je crois qu'aujourd'hui je le suis un peu plus, mais à l'époque et pendant longtemps ma carrière c'était au fil de l'eau, quoi. Je me laisse porter par où le vent va mener la barque, hein. Ça a été la même chose pour le choix des études, je l'ai dit, c'était pareil au début. Donc en fait je fais ce truc d'éducateur, j'y suis, j'y trouve mon compte pendant quelques années, parce qu'en fait, je profite quelque part de l'instant présent, comme ce bon vieux monsieur Keating, hein, voilà, c'est carpe diem. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'après 4 ans, j'ai vraiment fait le tour. Je ne vois justement pas où... Qu'est-ce que je vais faire, c'est ça mon métier, je vais faire du social, alors en fait, mais du coup, j'ai pas fait d'études avant, donc voilà. Est-ce que je me retrouverai responsable? Et puis j'étais payé, il faut quand même le dire, le job d'éduc non spécialisé, il allait avec le salaire qui est lié à ça, c'est-à-dire en fait un salaire équivalent CESS, quoi. Donc du coup, c'était pas possible, donc plus à un moment par rapport aux études que j'avais entreprises, etc. Il n'y avait pas de perspective de développement. Donc tout ça m'amène à me dire que je suis un peu un carrefour de ma vie. Et donc effectivement, ce qui se passe, c'est que je fais une pause carrière pour faire un voyage en Amérique latine. Quelque part, le fait d'être bloqué a amené aussi un vieux rêve qui était à côté à se concrétiser, quoi. Je ne savais pas quand j'allais faire ce voyage, si j'allais faire ce voyage un jour. Je rêvais de faire ce voyage avec quelqu'un, mais à ce moment-là, j'étais célibataire. Je n'avais pas encore rencontré la fondatrice de Recréation. Et donc, les éléments concordaient pour que ce soit le moment pour faire... le break avec le boulot, faire une pause carrière, partir faire ce voyage, qui m'a aussi apporté énormément. Et en fait, c'est pendant le voyage que la décision s'est faite de dire « je ne retournerai pas là-bas », parce que justement, j'ai vécu des super années, mais c'était trop à plein d'égards. Je ne me revoyais plus du tout refaire les permanences, retrouver ces ambiances-là. Donc, je voulais changer, et donc j'ai remis ma démission. Au moment, donc un peu avant, pour qu'elle tombe au moment où je rentre du voyage. Et puis j'ai cherché un boulot. Et en fait, c'est ce qui m'a amené après à mon emploi suivant. Il a quand même fallu quelques mois pour y parvenir. Mais là déjà, il y avait eu ces 4 années de social et cette expérience-là, je pouvais la valoriser pour me lancer dans le domaine social.
Et donc tu arrives à Convivial.
Voilà. J'arrive à Convivial comme ça. Alors presque aussi... Tout n'est toujours pas du hasard, mais on n'est pas loin de ça quand même. Là encore, coup du destin, j'ai un ami qui travaille chez Convivial à ce moment-là qui me dit, il y a un job qui va se libérer, qu'on va créer. Non. Il y a un job qu'on va créer, qui est de l'accompagnement de terrain, accompagner des personnes dans leur démarche. À mi-chemin entre un travail d'éducateur, assistant social et médiateur interculturel, voilà, des choses comme ça. Je sais que toi, tu as voyagé, Lio, que tu aimes bien ça, je sais que tu travailles dans le social. Est-ce que ça ne pourrait pas te convenir? Donc là aussi, je postule j'arrive à convaincre la directrice de m'engager. Et donc effectivement, je me retrouve à Convivial, mouvement d'insertion des réfugiés. C'est du social, mais là, on est déjà dans un domaine plus particulier. Enfin, j'avais quitté le général bas seuil d'accès, donc vraiment plus les personnes vraiment à la rue ou proches de la rue. Et là, je me retrouve dans la thématique des personnes reconnues réfugiées qui s'installent à Bruxelles. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un champ assez nouveau. Mais, ouais, vraiment, coup du chance, je me retrouve dans une institution géniale. Avec un management génial, vraiment une directrice extraordinaire, plein de collègues, enfin super. Et donc là, ça a été une vraie lune de miel, certainement les deux premières années en tout cas, dans le travail, et à plein d'égards, parce qu'à la fois c'est un domaine où bon, je valorise quand même mes compétences acquises, mais je découvre beaucoup de choses, je découvre vraiment cette réalité des personnes en exil qui s'installent, les raisons qui amènent à l'exil, puis les difficultés que c'est de s'insérer quand on est étranger dans ces conditions-là, trouver un logement, trouver un emploi, avancer dans sa vie, faire venir sa famille qui est séparée, enfin, plein d'enjeux comme ça de vie assez fortes. Et à côté de ça, je découvre complètement le management d'équipe, parce qu'avant j'étais éducateur au sein d'une équipe, je n'étais pas responsable. Là, tout d'un coup, je suis responsable d'une petite équipe de volontaires, de personnes en insertion, après plus tard de contrats plus classiques, mais je manage une équipe quoi. Et donc là je découvre tout, animer des réunions, superviser des personnes, les encourager, les former, les évaluer, tout ça quoi. Avoir des stratégies pour le projet, et aussi participer au processus de direction, de management, puisqu'on avait... J'étais responsable, donc il y avait la direction avec les différents responsables de service, qui avait une gestion assez participative dans le management. Donc là aussi, se retrouver au cœur du fonctionnement de toute une association, une institution, c'était grisant, c'était génial.
Ok. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans cette expérience-là ? Qu'est-ce qui t'a permis finalement de partir d'un niveau de compétence finalement sur le côté terrain, mais sur le côté managérial assez bas ? Qu'est-ce qui t'a permis de relever les challenges de cette fonction ?
Bon, alors, je crois que le fait de se retrouver dans cette fonction-là m'a forcément obligé à me positionner, à agir. Par exemple, pour le management d'équipe ou la planification de projet, donc à un moment, à me dire bon, comment je ferais là, comme ça, à poser la question, ça a quand même révélé que j'avais les capacités. Donc je sentais par exemple sur le leadership qu'il y avait quelque chose en moi qui était là, quoi. Il y avait quelque chose en moi qui faisait que je sentais que je pouvais mener une équipe, utiliser mon sens de l'humour, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans la vie en général, et là dans le travail par exemple, j'utilisais énormément. À un niveau que je n'avais jamais imaginé, mais à quel point ça pouvait être très utile dans le travail, dans la gestion d'équipe, dans les relations avec les autres. Donc, en tout cas, voilà, utiliser des choses qui étaient en moi, en faisant, en autodidacte. Donc ça m'a permis d'être dans la fonction, c'était d'utiliser les compétences que je pouvais avoir. J'ai parlé justement de tout l'aspect méthodologique que j'avais appris en histoire, de l'utiliser pour à un moment planifier... des objectifs, faire preuve d'esprit de synthèse pour des tas de choses comme ça, le rédactionnel dans des rapports, des choses que je savais faire, je suis assez à l'aise avec le rédactionnel et tout ça, donc c'était des choses que j'utilisais. Et après, il y a eu quand même, j'ai bénéficié d'un excellent encadrement, et je pense notamment aux deux premières années, de la part des RH, avec une super responsable RH et de la part de la direction. Voilà, là j'ai pu compter chaque fois sur une super directrice, une super responsable RH, un environnement aussi où on accompagnait, on n'était pas dans la recherche de résultats, dans quelque chose où on aurait exigé de moi d'une performance. Ouais, je pense qu'effectivement, peut-être aujourd'hui ça irait, mais à l'époque j'aurais pas été prêt pour une dimension par exemple plus proche du privé. J'avais besoin d'être assuré, d'être accompagné, et donc il y a eu tout ça.
Okay.
Et donc ça permet à un moment de rentrer dans la fonction, d'apprendre aussi, parce que, enfin, un exemple éloquent, dans les premiers mois où je me suis retrouvé en tant que responsable, j'ai dû gérer deux départs de volontaires et notamment en fait faire le constat que des volontaires qui étaient impliqués ne correspondaient pas du tout à ce qu'on souhaitait faire, et qu'en gros il fallait les amener à comprendre qu'ils devaient soit quitter la structure, soit changer de service. Et donc en fait apprendre cette logique-là du volontariat, d'accompagner des gens qui viennent, qui donnent leur temps, qu'il faut quand même pas brusquer, enfin voilà, c'est quelque chose, mais c'est éprouvant quand même aussi humainement, parce que tout d'un coup on a l'image qu'on va fonctionner tous ensemble, et puis en fait non, il y a quand même des tâches à effectuer, donc il faut voir que telle personne n'a pas ces compétences-là, et donc il faut voir comment l'amener à évaluer. Or c'est un volontaire, il n'est pas salarié, contractuellement, quels sont les engagements. Donc découvrir ça, c'était pas simple. Et alors, autre chose, j'ai aussi dû procéder au licenciement d'une personne, alors de nouveau de manière accompagnée, mais parce qu'on avait quelqu'un en insertion qui ne convenait pas, qui ne respectait pas le règlement de travail, avec qui il y a eu des clashs, et donc se retrouvait très tôt à devoir faire des médiations, essayer de trouver des solutions, mettre des avertissements, et puis à un moment prendre la décision, et aussi dire les yeux dans les yeux à quelqu'un, on va arrêter avec toi. Waouh, c'était quelque chose de... Enfin, très vite, très formateur, mais voilà, par l'accompagnement que j'avais, ça a été fait, et du coup, ça s'est bien passé, et du coup, ça m'a permis de constater que j'étais capable de le faire. Et donc, par la suite, après, je me suis vraiment complètement épanoui quoi, dans ces fonctions-là conviviales, et par la suite, il y a eu d'autres services au sein de l'association pour lesquels j'étais responsable. J'ai été responsable d'équipes un peu plus élargies. Je me suis plus impliqué dans d'autres aspects de l'association.
Il y a eu plein de projets différents et d'évolutions dans ta fonction et dans ton
équipe. Tout à fait. Il y a eu trois moments dans Convivial avec vraiment trois services différents.
Et ça, 12 ans, c'est ça, je sais
plus. Oui, c'est ça, 12 ans.
12 ans total Convivial. Et puis, à un moment, tu avais aussi finalement fait le tour de cette aventure-là. C'est quoi la suite et comment tu arrives à Singa?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'après donc 12 ans de Convivial, j'ai quand même fait le tour. 12 ans, c'est pas rien. J'avais eu des réflexions pendant ces 12 années sur le fait de vouloir un moment changer. Et puis voilà, les opportunités ne s'étaient pas présentées. Et donc au bout des 12 ans, à ce moment-là, on arrive en fait. Ce qui se passe, c'est que les 12 ans, ça correspond à l'année Covid. Donc, on est à ce moment-là en première vague, c'est hyper compliqué, voilà, tu en sais quelque chose, on l'a vécu à deux, c'était très intense, ce confinement, à gérer, notamment professionnellement, et une série de petits soucis, de petits clashs liés justement à des problèmes à cause de ce confinement, de la distance, du manque d'outils disponibles à ce moment-là, c'était l'urgence pour plein de choses. Ça m'a fait prendre la décision de vouloir partir. Et donc, j'ai postulé ailleurs et je me suis retrouvé à la Croix-Rouge. Donc, à partir du mois de juin. Donc, en fait, juin 2020, c'est ça, ça correspondait aux 12 ans à Convivial. Et donc, voilà, je suis arrivé vraiment avec chez un nouvel employeur, plein d'espoir et d'envie justement de changement, parce que je me disais, bon, voilà, j'ai 12 ans du même employeur, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Et puis... j'ai 40 ans, j'aspire encore à d'autres responsabilités, autre chose. Cette fois, c'est un employeur avec un autre volume, d'autres trucs. Alors, le problème, c'est qu'en fait, ça s'est pas du tout bien passé. En tout cas, pas comme je l'aurais souhaité ou comme je l'ai un peu rêvé. Il y a eu plein de soucis, et sans rentrer dans les détails, disons que c'était un grand écart à plein de niveaux. Le service que j'ai repris à ce moment-là était en transition aussi de responsable. Dans un domaine très pointu et pour lequel finalement il s'est révélé que j'étais pas du tout en phase ou éloigné de ce que c'était extrêmement compliqué. C'était un des gros nœuds de ce que j'ai rencontré comme problème. C'est très compliqué d'avoir des liens avec l'équipe, les gens avec qui je travaillais, et donc de recréer une ambiance d'équipe, recréer une vie avec des gens que je connaissais vraiment pas, que j'ai d'abord rencontré en visioconférence. Et puis tout ça a contribué à ce que je ne me sentais pas bien et que je réalise par exemple que dans le travail, j'ai vraiment besoin d'être en osmose avec les gens avec qui je travaille. J'ai besoin de sentir qu'il y a une ambiance apaisée, apaisante, mais de grande confiance, de grande presque complicité aussi, et que je n'avais pas lu tout ça. Tout me semblait froid, compliqué, distant, j'étais pas bien. Et fort heureusement, Enfin, comment l'exprimer? En fait, c'est un peu un coup du sort. Je me suis retrouvé après à peine 6 mois dans une situation où j'étais au bord du surmenage et sans doute du burn-out. Et heureusement, grâce au conseil précieux d'une personne chère à mon cœur, c'est très bizarre, mais non, évidemment, grâce à toi, Jessica, parce que tu travailles dans le domaine, parce que tu savais repérer les signes de ce qui était du surmenage, de ce qui était les signes aussi du burn-out, ben, j'ai pu bénéficier de ces conseils et bénéficier aussi, ça c'est quand même incroyable, d'avoir les encouragements et le support nécessaires pour oser prendre la décision de faire un pas de côté, prendre la décision d'aller voir un médecin et de dire je ne me sens pas bien, j'ai pas envie, je n'ai plus envie de retourner au boulot et je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux plus y retourner. Alors qu'effectivement, j'étais dans un profond sentiment de mal-être parce que j'étais pas bien à cause des conditions de travail et aussi parce que je culpabilisais d'être dans cet état-là et que je culpabilisais du fait que si j'arrêtais, ce serait pire que bien, etc. Et j'étais en train de me convaincre moi-même que je devais rester, que j'étais obligé, que c'était impossible de déjà être dans un état comme ça à peine après 6 mois, que je devais faire un bilan après 1 an. Enfin, je me trouvais moi-même toutes les excuses pour continuer. Et c'est notamment en discutant avec toi et en voyant ça que j'ai pu réaliser que ça n'allait pas, que c'était légitime que je puisse me reposer, faire un pas de côté, que la Terre n'allait pas arrêter de tourner. Et donc c'est ça qui m'a sauvé, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est ce qu'il me fallait. Et donc c'est ce qui m'a permis de faire le cap, de faire donc effectivement un break, mais lié à un surmenage, à un état de mal-être. Et donc, ça m'a permis de prendre du recul sur moi et sur ce que je voulais faire. Et là, je dirais aussi, à nouveau, coup du destin. C'est vrai que c'est un peu un fil rouge, là, comme ça, ces opportunités. Mais voilà, ça aurait peut-être pas été ça, ça aurait peut-être été autre chose. Mais là, pour le coup, ben, j'ai eu un appel de Singa. Alors, en fait, j'étais en échange, j'étais en lien avec Singa, hein, parce que je les connaissais depuis mon expérience à Convivial. Au moment où Singa s'est lancé, j'étais en lien avec les fondatrices de Singa et on avait de très bonnes relations. J'étais dans le comité de pilotage du fameux projet Comme à la maison qui se lançait. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc au moment où je suis voilà, dans cette période de burn-out, j'ai un échange avec une des coordinatrices de Singa qui me dit bah justement, on a le poste de responsable du projet Comme à la maison qui se libère parce que la collègue qui gérait ça elle-même partait en burn-out. Enfin bon, c'était le Covid, hein, donc c'était partout, dans tous les sens. Et donc elle dit, mais à un moment, voilà, ben, il va falloir reprendre ça. On attend un peu de voir, mais il y aura peut-être une opportunité. Donc effectivement, on s'est laissé un peu le temps de réfléchir de part et d'autre. Eux devaient d'abord avoir la confirmation que le projet allait continuer, qu'ils allaient avoir les financements, ce qui a été le cas. Et donc en fait, elles m'ont proposé de rejoindre Singa avec ce poste. C'est comme ça que je suis arrivé chez Singa. C'est parce que voilà, je connaissais bien le projet en lui-même, je connaissais les personnes. Et justement, comme j'ai dit tout de suite, comme j'avais besoin, je sentais que j'avais besoin de me retrouver dans une structure où j'allais être avec des relations vraiment apaisées, mais des relations bienveillantes. Et voilà, je savais que j'allais arriver avec des personnes bienveillantes qui m'appréciaient et j'avais besoin de ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé quand j'ai rejoint Singa. C'était un environnement de travail qui me correspondait avec des gens que j'appréciais, qui m'appréciaient. Et ça a tout changé, évidemment. Là, j'ai pu vraiment repartir sur, voilà, à fond la caisse dans ce nouveau projet que je gère encore aujourd'hui.
Il y a une question que j'aime bien poser, surtout quand les métiers des gens ne sont pas forcément mainstream et voilà, classiques, si tant est qu'il reste encore des métiers classiques. À quoi ressemblent tes semaines? Qu'est-ce que tu fais de tes journées?
Alors, ce qui est cool, et que je dirais, hormis l'épisode Croix-Rouge, grosso modo, c'est quand même, ça a été souvent le cas, je trouve, dans tous mes métiers, c'est que j'ai vraiment toujours cette sensation que toute journée est quand même nouvelle, quoi.
Oui.
Y a évidemment des marqueurs propres à une semaine où la semaine est très rythmée par des moments de réunion, des moments de telle ou telle chose, mais j'ai quand même toujours sentiment que voilà, c'est nouveau, il y a une nouvelle journée, et ça, c'est quand même, enfin, ça n'a pas de prix, je trouve. Mais donc, oui, en tant que chargé de projet ici, ma journée, elle va être rythmée par des moments de réunion. Enfin, c'est un peu le cliché de je lis des mails et je fais des réunions, mais c'est un peu ça mon métier. je vais, en rapport avec le projet que je coordonne, en fait, je vais beaucoup plus superviser le travail de mes collaborateurs, collaboratrices, imaginer la stratégie du projet et enfin la promotion. Bon, davantage aujourd'hui que de mettre en place les cohabitations. Mais donc, quand même, pour dire que le travail, c'est la mise en place de cohabitations solidaires entre des Bruxellois qui vivent en colocation ou des gens qui ont une chambre chez eux et des personnes réfugiées. Donc, il m'arrive de rencontrer des personnes réfugiées pour faire un peu une sorte de screening, avoir une idée de qui est la personne, de comment elle vit, de ses habitudes. Donc, c'est des rencontres, hein, des entretiens avec ces personnes. De l'autre côté, ça peut être des entretiens, des visites de colocation, de gens qui ont une chambre chez eux, donc des locaux, des hébergeurs. On va les rencontrer, on va essayer de comprendre ce qu'ils proposent, qui ils sont là aussi. Et ensuite, après, tout un travail avec l'équipe de Comme à la Maison, de matching. On va dire, on pense que ouais, Michel, on pense bien qu'il irait bien chez Chantal, quoi, et pour telle ou telle raison, et on va organiser ça, etc. Puis il faut trouver un volontaire qui va l'accompagner pour faire les démarches. Puis derrière, il y a le travail de suivi de cette cohabitation quand elle se met en place. Il y a le travail de supervision du volontaire quand il accompagne le réfugié, mais qui est beaucoup plus fait par mes collaborateurs. Et moi, je vérifie que
ça roule.
Que ça roule, voilà. Et à côté de ça, ben, c'est beaucoup de promotion. Beaucoup de promotion. Il faut faire venir des gens. Il faut stimuler les gens. C'est aussi une des philosophies de Singa, c'est qu'on considère que l'immigration et le vivre ensemble est une chance, c'est une opportunité, c'est quelque chose de positif qui apporte. Et donc, on a une vision assez positive de ça et donc on veut l'exprimer. Donc, beaucoup de notre travail, c'est de mettre en avant des témoignages de success stories, parce qu'il y en a beaucoup, de ces cohabitations qui fonctionnent, de ces mises en relation qui fonctionnent, montrer qu'on peut venir d'univers et de lieux très différents et se retrouver sur des valeurs, se retrouver sur plein de choses. Donc, c'est ça la partie beaucoup de travail de cette communication, cette promotion-là.
Et puis, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.
Alors là, franchement, oui. Ça, c'est incroyable. Mais effectivement, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je me suis créé plein de comptes. Je suis sur Instagram. Je fais des stories.
Des reels.
Des trucs que j'aurais jamais fait avant. Alors, c'est pas parce que je suis le vieux dinosaure réactif aux technologies. Je trouve quand même que j'ai de l'intérêt à ça. Si je compare notamment à des collègues que j'ai pu croiser avant, qui vraiment, pour le coup, sont de la vieille école. Quoi. Enfin, vraiment, le côté... les réseaux sociaux, c'est le diable ou alors c'est l'ordinateur. On a l'impression que c'est les gens qui découvrent le PC comme à l'époque. Quoi. Enfin, c'est... Voilà, non, heureusement, je pense avoir cette forme d'agilité-là. Cela dit, être agile et être en résonance avec vraiment les nouveaux modes de communication, il y a quand même encore un pas. Il faut apprendre des choses, mais c'est super gai. C'est super gai d'apprendre ça, c'est super gai de faire. Enfin, il y a un côté aussi, de nouveau, autodidacte, hein. Il y a un côté, on apprend en faisant. La dernière fois, j'ai fait un petit montage vidéo avec musique et annonce sur Canva. Ça m'a pris un temps dingue, mais j'étais tout fou de le faire. Voilà, alors que je ne suis pas infographiste, je ne suis pas communicant, je n'ai pas fait de marketing, mais c'est des choses qui sont assez chouettes et qui révèlent aussi d'autres aspects de ma personnalité ou qui font mettre en avant d'autres aspects de mes compétences, qui sont peut-être là, hein, plein de soft skills, mais qui ne sont pas... exploité tel quel ou mise en avant tel quel et sur lesquels je peux encore travailler. Et ça, c'est super chouette de m'être rendu compte que j'ai pu développer plein de choses liées au champ social qu'on va rapprocher à celle d'un intervenant social comme un assistant social ou un psychologue en termes de capacité à mener un entretien, mener une relation interpersonnelle avec un usager ou un bénéficiaire avec cette relation de travail-là. Ici, bah, c'est apprendre d'autres compétences sur... au fond, quand on est dans un travail de communication, de marketing, comment convaincre, comment mettre en avant les éléments, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel est le but qu'on veut atteindre. Non, ici, on ne vend pas des aspirateurs ou on ne veut pas rémunérer nos actionnaires. Justement, on vise un objectif derrière de mobilisation, de conscientisation des gens, mais on utilise un peu les mêmes techniques et c'est très, très, très intéressant de s'y confronter.
Super. C'est quoi tes outils de travail justement ? T'as besoin de quoi pour pouvoir faire ton métier ?
Alors aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un PC, d'un téléphone, de l'accès effectivement à ces réseaux, d'une série d'applications et d'outils de création, de contenu. Hein. Je vais parler comme un YouTuber, mais c'est ça, c'est la création de contenu, comme Canva, ou d'autres outils. Après, il y a vraiment plein de choses aujourd'hui, dans les quelques outils qui existent, qui suffisent bien, mais il peut encore, évidemment, si je me spécialisais vraiment, si j'avais comme fonction d'être sur la com pure, je développerais certainement encore bien d'autres outils. Je crois que c'est ça dont aujourd'hui j'ai besoin. Après, je crois que c'est en fonction du métier qui évolue, c'est peut-être des formations, de la formation continue. Dans ces domaines-là, parce que apprendre en faisant, c'est bien, apprendre en observant les autres, c'est bien, mais à un moment, si on vise une qualité, si on vise un degré de professionnalisme, ben on doit se professionnaliser. Mm-hmm. Donc il faut utiliser les bons outils et se former à la bonne école. Mm-hmm. Donc, oui.
Mais donc, tes besoins, tes outils de travail, c'est ça, c'est téléphone, ordinateur, et puis... À part ça, tu peux fonctionner d'un peu partout.
Aujourd'hui, dans mon métier, c'est ça. Avec un PC et un téléphone, on peut déjà faire énormément de choses. Alors, et un bureau pour rencontrer des gens quand même.
Ouais. Et ma trottinette.
Et ma trottinette, voilà. Et ma trottinette pour me déplacer dans Bruxelles pour rencontrer les colocs. Mais en fait, en se déplaçant et en communiquant, je peux tout à fait, aujourd'hui, permettre la mise en place de cohabitation entre un Érythréen et des Belges. Hein. Simplement en... rencontrant des gens, ouais. Imaginant la manière dont ça va se faire, vérifiant les critères et en convaincant en fait tout le monde d'y aller, quoi, de se lancer et puis en étant dispo pour que tout se passe bien. Mais donc effectivement, c'est beaucoup de métiers de communication en fait. Hein.
Ok, super. Il y a une question pour terminer que j'aime bien amener et je suis curieuse d'entendre ta réponse là-dessus. Ce serait quoi le très bon ou le très mauvais conseil que tu as reçu, que tu voudrais partager, ou éventuellement le conseil que tu aurais aimé recevoir, qui aurait pu t'aider dans une de toutes ces aventures.
Alors là, c'est une belle question.
Vu que tu n'écoutes pas le podcast, tu ne savais pas.
Je n'écoute pas le podcast jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que c'est vaste, parce qu'en fait, je suis en train de repenser dans ma tête à tous les moments, et donc ces fameux moments charnières qu'il y a eu. Alors voilà, le bon conseil, alors que je n'ai pas forcément reçu, mais que je donnerai. Oui, je crois que c'est que suivre son instinct n'est pas... suivre son instinct et à un moment se lancer sans forcément avoir... tout préparer, tout anticiper, donc voilà, ce côté un peu, se laisser porter par le vent comme je l'ai eu, ça peut être une bonne chose. Évidemment, c'est un conseil à double tranchant, parce que ça peut valoir pour... j'ai peut-être eu énormément de chance, en fait, et dans d'autres cas, le choix aurait été mauvais. Bon, mais après, hein, dans la vie, soit je perds, soit je gagne, soit j'apprends, voilà. Donc, même pour mon passage à la Croix-Rouge, au final, ça m'a beaucoup appris. Et ça m'a amené à Singa, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que finalement, ce choix qui s'est révélé négatif, mais est-ce que c'est vraiment le choix qui était négatif? C'était les conditions qui étaient négatives. M'a amené au final à Singa. Donc, je pense que suivre son instinct, y aller, parfois ne pas trop se poser des questions, c'est une bonne chose. Je pense, alors là, évidemment, c'est peut-être facile à dire aussi pour moi, chaque situation est différente, mais je crois qu'effectivement, la question... des conditions matérielles, des conditions salariales dans ma vie, c'est jamais quelque chose que j'ai mis en avant. Alors, c'est toujours plutôt quelque chose que j'essaie de récupérer après. Une fois que j'étais dans la place, j'ai dit, tiens, en fait, est-ce que je pourrais pas avoir un peu plus là, parce que quand même, j'ai fait des sacrifices où j'accepte de venir à des conditions qui sont peut-être pas optimales. Donc là, il y a peut-être pas de bonnes choses. Je peux tout à fait comprendre qu'on veuille d'abord exiger de bonnes conditions salariales ou matérielles pour pouvoir faire son travail. Dans mon cas, ça a souvent été, bon voilà, en fait, qu'est-ce qui me plaît d'abord? C'est l'opportunité. Au final, je veux être heureux dans mon travail. Et donc, s'il y a une opportunité qui se présente alors que je n'ai pas les conditions matérielles, bon, on y va quand même et on verra par la suite. Bon, voilà. C'est sans doute pas applicable partout, mais là, je trouve que c'est un conseil qui, pour le coup, m'a apporté quand même des expériences professionnelles que sans doute je n'aurais pas prises. Je n'aurais pas été dans ce job d'éducateur si j'avais d'abord dit « je dois avoir payé comme universitaire ». J'aurais pas pris le boulot chez Convivial. J'ai d'abord payé en niveau bachelor, hein, chez Convivial. Donc j'aurais pas été chez Convivial non plus. Et voilà. Et on peut. Donc finalement tout ça, toutes ces choses-là qui pourtant ont influé concrètement sur là où je suis aujourd'hui. Donc je crois que c'est normal, légitime de vouloir être réveillé correctement, mais dans certaines situations, quand une opportunité se présente d'un boulot, je privilégie personnellement l'expérience de travail et tout ce que ça allez, je privilégie l'expérience de travail et tout ce que ça amène par la suite, parce qu'au final, ça m'a amené et de l'expérience et un réseau, et rencontrer des gens. C'est, enfin, voilà, mes trois jobs, c'est chaque fois via des personnes que j'ai côtoyées, en fait. Il y a je ne sais plus combien de gens qui trouvent leur boulot en dehors des annonces. Ben, moi, c'est vraiment le cas.
8/10.
Mais c'est ça. Ben, moi, c'est ça. Ouais. C'est vraiment via tous les gens que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon travail et nourrir ces relations. C'est extrêmement précieux parce que ça a un réel impact.
Super. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Singa et toi personnellement, mais c'est quoi la suite? Pourquoi est-ce qu'on croise les doigts?
Bon, je pense qu'on peut souhaiter à Singa et à moi, parce que j'y suis quand même bien associé, alors une forme de stabilité, forme de stabilité évolution. Et voilà, oui, c'est ça, je crois que on est dans quelque chose qui se développe, qui est très chouette. Qui est en résonance avec beaucoup de gens. Ça marche très fort au niveau des membres, des gens qui participent à nos projets. Et comme partout dans l'associatif, ça c'est une réalité que je vis au quotidien, il y a quand même toujours de la fragilité. Souhaiter se retrouver, avoir une forme de sécurité dans le domaine du non-marchand et de l'associatif, c'est très précieux d'avoir cette stabilité là, et oui, c'est un graal un peu vers lequel on court, quoi.
Ok, merci.
Merci à toi, mon amour.
On est au bout. Mais comme je dis, alors j'ai souvent des invités qui sont des entrepreneurs, mais pour Singa aussi, évidemment, on va mettre tous les liens et tous ces outils marketing que tu développes pour que les gens qui sont intéressés puissent aller retrouver votre travail, toutes les activités, tous les moments où vous faites la fête, parce que tu ne l'as pas dit, mais vous faites quand même très 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 souvent la fête.
Nous, on travaille pendant ce temps. Les autres, on contribue à ce que les autres
fassent la fête. Mais oui. Parfait, mais comme ça, tout le monde pourra venir participer à ça. Merci.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette 3e saison. J'espère que cet épisode vous a plu, que les autres, vous aurez envie de les réécouter en boucle jusqu'à ce que je reprenne mon micro pour de nouvelles aventures, j'espère, en 2024. J'espère que vous aurez reçu dans ces épisodes de l'énergie, de l'enthousiasme, la curiosité, le courage aussi, parfois la folie de mes invités, et que tout ça vous aura inspiré de l'envie d'aller vers de nouvelles aventures professionnelles. Vous savez où me trouver si vous souhaitez évidemment qu'on en discute et qu'on trace un chemin, parce que je pense que ce qui ressort de tout ça notamment, c'est que on va beaucoup plus loin accompagné que seul dans ces aventures professionnelles. Je vous souhaite donc de bons moments professionnels et dans vos vies personnelles. Et je vous dis à bientôt pour de futures récréations.